Montagne, montagne.
Montagne, montagne, de la montagne, mais passer dessus. Le tunnel du Sans-Port est aussi large que mon gué.
Tire bien, tire bien, tire bien, tire bien.
Oh, prenez-moi dans la dameuse. Je vous ferai le coup de
L'omelette.
L'omelette ou
Bameuse.
Ah, mais tu vois?
Ah. Montagne, montagne, montagne. Oh oui! C'est
Voilà.
Magali de Puangali.
Exactement. La fois où vraiment on me l'a fait remarquer pour la première fois et où il y avait vraiment une intention malsaine et méchante, c'est au moment de passer les concours d'entrée à l'école des chartes, au moment des oraux, puisque les oraux se passent à Paris, dans l'ancienne école qui était place de la Sorbonne. Et donc une autre candidate, qui passait le concours en même temps que moi, m'a demandé depuis combien de temps je parlais français. Et donc je lui ai répondu que, ayant vécu pendant 18 mois, 18 ans dans les bois, je me débrouillais pas trop mal en français. Finalement, je pense que j'étais à peu près intelligible par n'importe qui. Et donc elle n'a pas eu le concours et moi je l'ai eu.
Alors, contrairement à Mathias, moi, j'ai pas du tout suivi la voie des grandes écoles. D'une part parce que c'était trop cher, et puis aussi parce que j'aimais pas spécialement l'idée de passer un concours. Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller à Paris. Ça, j'en avais parlé beaucoup à mes parents. Et donc, j'ai fini par m'y installer en 2015 pour un stage. Et c'est à partir de là que j'ai compris que j'allais être l'attraction locale. Avec les G à la fin des mots et mes expressions, quoi.
Tu viens de Marseille, La Ciotat, tout ça. Enfin, je sais pas, t'as un peu un accent genre de Kaira du Sud.
C'était d'abord relever certains mots sur lesquels j'avais plus l'accent que d'autres, et puis après, c'était me demander de les répéter.
Jeune ou jaune, j'arrive pas bien à comprendre.
Donc ça, c'était d'abord ponctuel, et puis après, c'était quotidien.
Est-ce que moi, à l'inverse, je me serais permise de répéter l'accent parisien, qui est un accent très fort. Personne n'a pas d'accent, je le dis. Voilà, bien souvent, les personnes les plus intelligentes commettent l'erreur de dire « Ah, mais il n'y a pas d'accent, et il y a l'accent du Sud, et il y a l'accent du Ch'ti, l'accent québécois, machin. » Non, il y a une norme standard, qui est l'accent de la bourgeoisie parisienne. Et est-ce que moi, je me permettrais de répéter, après cet accent bourgeois parisien? Non.
Cette voix que vous entendez là, c'est celle d'Hortense. Hortense et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois, lorsque j'ai commencé à faire des recherches autour de l'accent. Et la première chose qui m'a frappée en parlant avec elle, c'est à quel point on avait pu vivre des situations similaires vis-à-vis de notre accent.
L'accent, je pense que je l'ai perdu. Mais je l'ai perdu dans des situations qui sont réputées sérieuses. Si je dois être assez sérieuse, je vais un peu forcer. Ouais. Même moi, je sens que je me contracte un peu. C'est vraiment musculaire, c'est presque organique. C'est la bouche qui est un peu contractée. Je parle un peu plus comme ça quand je suis stressée. Mais en revanche, si je suis plus à l'aise ou si je suis énervée aussi, si je suis énervée, si je suis triste, émue, là, l'accent ressort beaucoup plus. C'est pas immuable, ouais, voilà, on dit on a un accent, on n'en a pas, c'est pas immuable, il y a de l'évolution. En revanche, je sais précisément que quand même sur le O ouvert et sur le E ouvert, voilà, donc si on dit jaune ou si on dit, je sais pas moi, peureuse, amoureuse, voilà, ce E ouvert, je le garderai toujours. Moi maintenant, donc j'évolue dans ce monde-là, ce petit monde hein, du quartier latin, un peu de l'ENS, et je crois que les gens qui exercent ce mépris de classe ne s'en rendent pas toujours compte. Il y a ceux qui s'en rendent compte. Et ça, bon, ça, je crois pas que je l'ai vécu, franchement. Mais ceux qui ne s'en rendent pas compte, oui, je l'ai vécu. Et je pense que c'est juste une inconscience, en fait, de la position qu'ils occupent privilégiée, quoi.
Je m'étonne en effet que un accent soit transmis de génération en génération alors qu'il est un obstacle
Alors.
aussi à l'insertion professionnelle.
J'en profite pour dire combien je suis désolé de cette histoire avec je ne sais quel journaliste. Je croyais qu'elle se moquait de moi parce qu'elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille. Et je lui ai répondu en imitant l'accent. J'ignorais qu'elle l'était elle-même et que c'est son accent. Ce qui nous vaut séance tenante. Toutes sortes d'enquêtes sur les accents et même une proposition de loi contre la glottophobie.
Il m'a fallu du temps pour comprendre le processus que j'étais en train de suivre, le fait d'intégrer des codes propres à un milieu social qui n'était pas le mien. J'ai, sans le savoir, sans m'en rendre vraiment compte, intériorisé le fait qu'avec cet accent, on ne m'accepterait pas complètement dans ce nouveau milieu social. Celui dans lequel j'ai mis les pieds en entrant à l'école, puis dans la vie universitaire et finalement dans mon milieu professionnel. En contrepartie, quand je rentrais à Toulouse, on m'appelait la Parisienne. On me faisait sans cesse remarquer mon parler pointu et le fait d'avoir perdu cet accent hérité de mes parents et de mes proches.
Quand tu as perdu ton accent, c'est quand tu es montée à Paris. Alors là, j'ai vu un changement total sur Julie, qui a pris son accent parisien. Et pour moi, de temps en temps, je sens que maman aussi, quand j'écoute parler ma fille, il y a l'accent qui brille un petit peu sur l'accent parisien.
Pourquoi tu parles comme ça?
Parce que c'était pour t'imiter un petit peu.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, tu m'as toujours dit qu'à Paris, eh bien, pour être bien vu, l'accent de Toulouse, il fallait l'abandonner complètement, que chocolatine, chez eux, ils ne connaissaient pas. Pour eux, c'était pain au chocolat. Donc, il est vrai que pour faire bonne mine, par rapport bonne mine au niveau de la société parisienne, il faut avoir l'accent parisien. Et moi, c'est vrai que là, je ne comprenais pas au début où c'est que tu voulais en venir.
C'est vrai que j'ai pas toujours été tendre avec ma mère.
Est-ce que c'est bien ce que je fais?
Mais oui.
Ah, d'accord.
Surtout quand j'étais ado, je me rappelle que j'ai dû la reprendre plusieurs fois sur ses mots ou sur ses expressions.
Ne modifie pas ta voix.
Et je modifie rien du tout.
Aujourd'hui, je me demande avec le recul si elle a parfois pensé que j'avais honte d'elle. Sans savoir que je reproduisais en fait sur elle des choses que j'avais moi-même subies. Le fait, par exemple, de devoir travestir sa manière de parler pour coller à des attentes.
Maman, je sais que t'es stressée, mais arrête avec les bruits, j'entends que ça. Et en plus, je trouve que tu modifies ta voix. Ouais. Parce que c'est pas la même voix que d'habitude.
On arrête alors.
Mais non, on n'arrête pas.
Ouais.
Je l'ai souvent entendu répéter quand même qu'elle avait l'impression de pas me comprendre. Ou du moins de pas être en mesure de me comprendre. Et en ça, la perte de cet accent, je me dis qu'elle a dû le vivre comme déjà un marqueur de mon éloignement géographique, mais surtout comme un marqueur de mon changement de classe.
Mais ce qui m'a étonnée de toi, c'est que tu m'as fait découvrir certains mots que je te demandais.
Ah bon ?
Et donc, il est vrai que par moments, ça me gênait car je ne savais pas la signification du mot. Et ça, de ce côté-là, et je le ressens encore aujourd'hui, il y a des choses ou des mots que tu me dis que dans ma tête, ben, ça ne m'est vraiment pas naturel de les reproduire puisque je ne connais pas la définition du mot. Même quand tu étais petite, ça me faisait ça.
Et quoi, par exemple?
Je ne sais pas, le jour que tu es rentrée de l'école, tu m'as dit « Maman, c'est le mot le plus long. » Ah bon? Et donc, tu m'avais...
Anticonstitutionnellement ?
Anticonstitutionnellement. Et ça, c'est un mot que je retiendrai toujours parce que je ne savais pas la signification de ce mot.
Et j'avais quel âge quand je t'ai dit ça ?
10 ans, à peu près.
Toutes les deux, on vient de deux mondes très différents. Elle a grandi à la campagne, dans une famille d'agriculteurs où les enfants sont très rapidement investis dans les travaux de l'exploitation. Donc, pour ses frères, ça consistait à s'occuper des travaux divers de la ferme. Et pour ma mère, c'était s'occuper de l'éducation du plus petit et remplacer ma grand-mère sur les tâches ménagères.
Ma mère ne voyait pas l'intérêt des études, car pour elle, la priorité, c'était de pouvoir faire face aux tâches ménagères et aux tâches donc, de l'agriculture.
Avec ses parents et la famille en général, elle parlait plutôt un français teinté de patois occitan, avec des expressions dont j'ai d'ailleurs hérité pour certaines. Et elle est arrivée en ville, elle avait seulement 18 ans en fait. Elle l'a fait pour rejoindre mon père. Et pour elle, c'était déjà une manière de s'extraire de son milieu, quoi. En fait, toutes les deux, je pense qu'on a fini par se comprendre là-dessus. Le fait d'être un peu entre deux mondes, dans le monde où on a grandi et puis dans celui dans lequel on évolue.
C'est la façon dont tu me regardes.
Je te regarde plus.
Ouais. Je vais trouver.
Ça, c'est la généalogie de mon papa aussi.
Ah
ouais? Ouais, j'ai beaucoup parlé avec lui pour... Voilà.
Mémé Odette, Pépé.
Oui, c'est ça. Edmond, qui a fait la guerre d'Algérie. Fernande, Roland, Tata Berthe, Élie, Maria, mariée à... On ne sait plus. Quand je suis chez moi,
ça, c'est les arrière-grands-parents.
J'ai quelques bribes qui me font me sentir bizarre, comme quand par exemple je reprends mon père donc ça fait partie du patois occitan qui zappe les prépositions, qui dit par exemple je me suis garée en face le café. Donc ça m'arrive, je sais pas pourquoi je fais ça, je lui dis mais non, on dit en face du café papa. Et là il me dit oh là là mais c'est bon, enfin non, enfin voilà, il refuse en fait ma reprise quoi. Et là je me dis oh merde, il me voit comme peut-être, je sais pas, parce que je pense pas, je suis sa fille, mais comme quelqu'un qui a fait, entre guillemets, les grandes études et qui le reprend, alors que, j'espère ne pas être ça.
Il y a quelques années, j'ai découvert l'écrivaine Annie Ernaux, et c'est par elle que j'ai pour la première fois entendu parler de ce qu'était un transfuge de classe.
Mon père ne savait pas parler le beau langage, le langage des classes dominantes. Il parlait encore un peu patois. Et il a désiré par-dessus tout, c'est que je fasse des études, que j'aie des diplômes, que j'aie tout ce qu'il n'avait pas eu. Et au fur et à mesure que j'obtenais ces diplômes, en même temps, moi, je changeais de monde. Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense. Déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que... automatiquement, je me suis mise à fréquenter et on ne parlait plus le même langage. Je crois que cette question de langage entre lui et moi, et c'était extrêmement important.
Oui, vous dites que c'était peut-être la chose la plus terrible qu'il y avait.
Ces quelques mots sont extraits d'une archive d'apostrophes qui est datée de 1984, où elle raconte les débuts de son livre La Place, qui est un roman adressé à son père, et où elle raconte avec une grande simplicité et une grande tendresse aussi ses souvenirs d'enfance. Je dirais que ces livres m'ont aidé à mettre des mots d'abord sur ma trajectoire sociale, mais aussi sur les sentiments ambivalents que je pouvais avoir parfois vis-à-vis de mon milieu d'origine. Aujourd'hui, je préfère quand même utiliser le terme transclasse, qui évoque moins l'idée de fuite, d'extraction de son milieu, mais peut-être simplement de mouvement d'une classe à l'autre, et le fait d'être entre les deux. Récemment, j'ai réalisé que j'étais pas du tout la première transclasse de ma famille, parce que c'est ma mère qui a vécu d'abord cette mobilité sociale, en passant du milieu agricole à la ville où elle est devenue employée de vente, donc un métier qu'elle exerce encore aujourd'hui. Et c'est marrant parce que quand je l'entends parler de ses parents ou de sa famille, j'ai jamais l'impression qu'il y ait vraiment de la honte, tant ça fait partie d'elle en fait.
Je t'ai fait parler quand même.
Ah oui.
Mais je pense que pour elle, comme pour moi, le langage a été une première étape dans la compréhension de sa position d'entre deux mondes, entre guillemets.
Beléou, Beléou.
Ça veut dire quoi?
Eh bien, peut-être. Mais donc, quand j'étais petite, je disais Beléou. Et donc, pour moi, c'était naturel de répéter Beléou. Et donc là, la maîtresse, les copains, copines de l'école ne comprenaient pas pourquoi il y avait des mots qui me sortaient comme ça, alors que pour moi, c'était tout naturel. C'était des mots qui sortaient en famille.
Et dans ta classe, c'était que des gens qui venaient du milieu agricole aussi ou pas?
Oui, tout à fait. La seule chose que je peux te dire, c'est ça a été différent quand je suis arrivée au collège, parce que là, j'étais confrontée justement avec des élèves qui avaient un monde différent. Les parents avaient une situation différente des miens, quoi. Et je ne voulais pas en aucun cas qu'ils sachent comment je vivais. Que je savais, quand on parlait entre copines, ben, elles me parlaient de douche, des choses comme ça. Alors que moi, ben, c'était en arrivant à la maison, ben, j'allais me laver dans une bassine, tout simplement. Déjà, on n'avait pas de voiture. Donc, c'était souvent mon père qui nous portait avec le tracteur. Et ben, quand on arrivait sur le banc de l'école, et ben, on avait tous nos vêtements qui étaient tachés par la terre, par les projections des roues du tracteur. Donc tout ça, même jusqu'aux mains, et ça m'était difficile à supporter.
Que je le veuille ou non, tout ce que j'écris vient de là, des quelques mètres carrés du hangar à poules de mon grand-père, de l'odeur des fraises qu'il cultivait derrière l'église, face aux collines de Hoymont, au-dessus de Lourdes et de l'Amblève, des silos à foin de la ferme de Jacques Martin,
des bêtes sachant d'instinct trouver le bonheur, des machines agricoles défoncées par l'usage, dans le purin. Je suis marquée à vie par ce monde presque disparu. C'est une immense joie et une immense peine. Je ne peux pas le dire mieux. Mon enfance me remplit de peine et de joie.
Antoine Wauters, L'enfant des ravines.
Quand on se voit, ça se limite par des discussions qui ne sont pas totalement ouvertes par rapport à notre comportement, par rapport à notre jeunesse, par rapport à ce qu'on a vécu. J'aimerais de plus en plus qu'elles me disent bah, « Tu vois, à 15 ans, à 16 ans, à 8 ans, tu faisais ça, comme là, ce que tu es en train de vivre avec moi aujourd'hui. » Donc ces choses-là, je ne les connaîtrai jamais. Les Nous, souvenirs. Hein, les souvenirs d'enfants, tout ça, je ne le connais pas.
Je considère que j'ai plutôt de la chance parce que ma mère m'a permis de faire des études et puis j'ai eu une enfance heureuse aussi. Je sais aussi que mon accent est parmi les moins discriminés en France. La violence que j'ai reçue, elle vient surtout du milieu bourgeois, de l'adaptation à ce milieu par l'appropriation de codes qui m'ont changé. Cette prise de conscience du rejet de mon accent a soulevé tout un tas de questions sur ce que cet accent pouvait véhiculer de mon identité, et sur le lien aussi qu'il constitue avec mon milieu d'origine. Personnellement, j'ai senti qu'il fallait que je réponde à ces questions, que je trouve ma voie. Parler de là où je me tiens, entre deux classes, entre deux mondes, sans rejet ou fierté malsaine.
Et ça, c'est la fameuse histoire. Ici, je suis quelqu'un du Sud-Ouest, et chez moi, je suis quelqu'un maintenant qui vit à Paris. Même si on me le fait remarquer en rigolant, parce qu'on me dit toujours, en me tapant sur l'épaule, mais de toute façon, toi, tu redescends. Mais chez moi, mon village a une sorte de devise, c'est Sempé, un cla ou un p, qui veut dire Sempé, un clou dans le pied. Alors, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'on est feignant. En réalité, c'est plutôt l'image du compas, c'est-à-dire que les gens de Sempé auraient un pied pointé et cloué à Sempé, l'autre pied peut bouger, mais de toute façon, ils seront toujours attachés par le pied qui reste à Sempé, donc ils seront toujours obligés de revenir.
En faisant cette espèce de coming out de transfuge, je crois que c'est ça que je cherche, c'est la légitimité, celle qui est la mienne en fait, ça sera ça, de dire « ouais, je suis transfuge, donc ouais, j'ai pas les codes entièrement de Paris, etc., de milieu bourgeois, et inversement, quand je suis chez moi, j'ai pas tous les codes, j'ai perdu en fait, un peu des codes, donc qui suis-je ? Ben, je suis transfuge, et ça par contre, ça oui, là je trouve de la légitimité. » Je manque pas de légitimité quand je dis au monde parisien que ouais, je peux lui apporter quelque chose en parlant de l'Aveyron, en parlant du milieu agricole, en parlant de mon parcours personnel. Alors que si je fais semblant d'être, justement, de vouloir passer l'agrégation, de vouloir appartenir au monde universitaire, alors que jamais je ne veux appartenir à ce monde. Bah, si j'avais continué à faire semblant, ce que certaines personnes continuent peut-être à faire un peu trop longtemps, là, ouais, j'aurais souffert de manque de légitimité. Je pense que je me serais dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est sûr que j'arrive à faire ça, etc.
Trouver sa voie. Y a-t-il plus grand paradoxe pour quelqu'un qui n'a jamais osé assumer la sienne ? Celle qui raconte « Je suis la fille d'un ouvrier et d'une vendeuse ». Celle qui affirme « Ma mère parlait patois, ma langue est empruntée, maniérée, distanciée, éloignée de celle que je suis et de celle que je suis devenue. » Celle qui se tient là, quelque part entre deux trajectoires, sans mérite ni honte. Annie, Mathias, Hortense, Marie-Odile, tous m'ont appris, à leur manière, à dire « je ».
Bonsoir Isabelle. Je ne peux pas être au cabinet demain pour notre séance. Bien à vous, Catherine.
Bonsoir Catherine, j'espère que vous allez bien. Est-il possible de prendre rendez-vous la semaine prochaine ? Je vous remercie. Bonne soirée, Isabelle.
Bonjour. je me vois dans la nécessité d'interrompre mes consultations pour une durée que je ne connais pas. Bien à vous, Catherine.
Bonjour à toutes et tous. Catherine nous a quittés ce jeudi 4 avril au petit matin, après 7 semaines d'hospitalisation. La cérémonie de ses obsèques aura lieu mercredi 10 avril, de 10h30. Chaleureusement, la famille.
Ma psy est morte.
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 Les obsèques ont lieu au crématorium du Père-Lachaise. J'y vais. Il fait gris, il pleut un peu. Il y a beaucoup de monde. Je me demande s'il y a d'autres patients. Le corbillard arrive avec le cercueil. Je me dis, elle est dedans.
Elle est dedans.
Je me mets au fond du crématorium. Les gens se serrent pour entrer. Il y a un grand écran sur lequel passent des photos. Les photos défilent en boucle, sa vie, sa famille, son fils, ses derniers jours à l'hôpital. La dernière photo est celle de son cabinet, de son fauteuil, prise de là où je m'asseyais une fois, parfois deux fois par semaine, en noir et blanc. Son fauteuil vide, sans aile, du point de vue du patient. Je me demande si c'est elle qui a choisi cette photo. Qu'est-ce que je voudrais cette photo ? Elle est morte, elle est vraiment morte. Une seule pensée en boucle dans ma tête. C'est absurde, cette situation est complètement absurde. Je ne devrais pas être là, ça ne devrait pas arriver. On ne devrait pas mourir vite comme ça, j'aurais jamais dû être à l'enterrement de ma psy, c'est complètement absurde. Je pleure. Et je me dis qu'il faudra vraiment que je lui en parle à notre prochaine séance. Parce que pour de vrai, c'est pas possible qu'elle soit vraiment morte. Pour de vrai, c'est pas possible que ce soit elle dans le cercueil, qui va être incinéré là, qui monte vers l'incinérateur. C'est juste pas possible. Et je suis là, à découvrir la vie d'une femme que je ne connaissais absolument pas, mais dont la mort me bouleverse. Je me dis que ce genre de choses, ça n'arrive jamais. J'en parle un peu autour de moi. En fait, si. Des morts brutales.
Un infarctus.
Un arrêt cardiaque.
Un avis de son décès.
En pleine thérapie.
J'ai été complètement atterrée.
J'étais complètement sonnée.
Il y avait une incompréhension absolument incroyable.
Et c'est même...
pire que le décès d'un proche.
Pire que le décès d'un proche.
Pire que le décès d'un proche. Catherine et moi, on s'est rencontrés en septembre 2014. On s'est rencontrés. C'est elle qui disait ça comme ça. Je voulais changer de psy. Celui que je voyais ne me convenait pas. Je me souviens plus vraiment de nos premières séances. Mais j'ai très vite compris que j'avais enfin trouvé ma psy. Juste à temps. Juste avant ma grande dépression de 2015. 2015, Anus Horribilis. La pire année de ma vie. Sans Catherine, je sais pas comment je m'en serais sortie. J'ai toujours pensé qu'elle m'avait vraiment sauvé la vie. Elle disait, on déroule le fil. Elle disait, le corps ne ment pas. Elle disait, moi, c'est le reste du monde.
J'aurais voulu que ce soit ma mère.
Lorsque j'arrivais, elle me demandait, comment ça va ? Ça n'allait pratiquement jamais, forcément, au point que ça me faisait souvent rire de lui répondre « Ben, ça va pas. » Ou souvent, elle commençait la séance en me demandant « Alors, comment vous arrivez aujourd'hui ?» Ça m'aidait à commencer. Et on déroulait le fil, comme elle disait. Je racontais mes états d'âme, elle analysait au fur et à mesure. Souvent, je comprenais pas tout, elle expliquait, ça s'éclairait. Certaines séances étaient bouleversantes. Parfois, pendant nos séances, elle se limait les ongles.
Je déteste le bruit de la lime qu'on frotte contre des ongles. Ça me fait grincer des dents. Je voulais lui dire, j'ai jamais osé. Je la trouvais tellement intelligente.
Il n'y a qu'à lui que je pouvais parler. Il n'y a qu'à lui que je pouvais raconter la douleur que je ressentais.
Elle dégageait un truc incroyable, quoi. Enfin, c'était mon Dieu. Je la trouvais brillante, belle, merveilleuse, intelligente, incroyable.
J'aurais voulu que ce soit ma mère.
Et que ce soit ma mère, ma sœur, mon amie. Je voulais être elle.
Je refais le trajet vers son cabinet. Cette fois, je sais que c'est la dernière fois. Je remonte la rue. C'est une de mes rues préférées, avec de grandes fresques murales sur les immeubles et un mobilier urbain repeint de toutes les couleurs. Je marche jusqu'à la porte. Je tape le code. Je pousse la porte d'entrée et j'arrive devant la porte du cabinet. La plaque est toujours là. J'appuie sur la sonnette. Elle marche plus. La porte ne s'ouvre pas. Je ne m'installe pas dans la minuscule salle d'attente. Elle ne vient pas me chercher. Je m'en vais. Je la vois partout. Ses yeux chez cette femme au théâtre, sa chevelure qui part dans tous les sens chez cette passante, sa peau assez marquée chez cette femme plus âgée, des bouts de son visage à chaque fois. Je me demande si pendant ces dernières semaines, elle a pensé à moi. Pendant la cérémonie, je m'attends presque à ce qu'il y ait un message pour moi. Je sais pas ce que je ressens.
Je me suis sentie totalement trahie, abandonnée. Je lui en voulais, mais j'avais une colère incroyable.
Vous n'aviez pas le droit de me laisser, quoi. Pas vous et pas là, pas à ce moment-là, pas... voilà.
J'avais quand même l'impression que je n'aurais plus confiance en personne.
Et quand vous avez le sentiment qu'il y a juste une seule personne sur la Terre qui arrive à vous comprendre et à vous soigner, surtout, et ben se dire que cette personne peut disparaître du jour au lendemain, c'est juste affreux, en fait. Et c'est ça le pire.
Et c'est ça le pire. J'ai pas la colère. J'ai pas le sentiment d'abandon. Parce qu'en fait, j'y crois toujours pas. C'est juste quelques séances reportées. Elle va me rappeler. Elle le fait toujours.
Bonsoir Isabelle. Catherine Bessel à l'appareil. Je vous laisse ce message pour vous dire que je repousse le rendez-vous de demain. Il est prévu à 11h, je le mets à midi. Vous m'appelez pour me dire si jamais il y a quoi que ce soit pour vous. Hein, je vous retrouve demain matin, un petit peu plus tardivement que prévu. Au revoir Isabelle, à demain.
Get into a comfortable body position as you consciously observe your breath. Contact that part of your body where you feel something.
Pieds, tête, cuisses, ventre, gros orteil gauche, œil droit.
Either it's a pleasant sensation or one of discomfort or pain.
Douleur, tristesse, angoisse, joie, peine.
Simply play with sounding an emotion. Trust the area you have chosen and simply make sounds as to what you feel. Exaggerate the sounds, which will allow the emotion to be heightened. Let one sound guide you to the next sound, and so on. Name aloud any feeling, and then sound it.
Oui. Ha. Non. Oui. Ha. Ha. Oui. Non.
Trust your intuition.
Oui.
Exactement. Tu voudras pas le faire?
Ni parler, ni chanter. J'ai fait des sons sans rien contrôler. Et je pouvais à peine me reconnaître. Ce qui sortait de moi était si triste. Je ne savais pas. J'ai découvert mon chagrin au moment où je l'ai entendu sortir de moi.
Oh, je pensais pas que j'avais autant de tristesse dans mon ventre.
Yes, you said you could hear, you started to listen to your voice. You could hear, wow, there is something so sad in it. And you even didn't know it, that you were so sad because you needed to be strong and manage your life and function. No, often we need to function in a situation, and the voice gives us this huge invitation to listen.
S'il y a des émotions, surtout que tu es complètement aimé, il n'y a pas de problème à pleurer, à rire, à se marrer, à se mettre en colère,
Chut.
Oui! Plus fort! Oui!
When I make sounds, first of all, I feel huge freedom and liberation. It's a big release of the emotions. At the same time, it really connects me deeply with my soul. My voice is
ma voix,
the biggest gift I received.
Mon plus beau cadeau.
For me, the voice is in a direct contact with the soul.
Mon âme.
As well as my home.
Ma maison.
For me, the voice is like a door.
C'est une porte.
To other dimensions. To my subconscious.
Vers mon subconscient.
Yeah, the voice is for me.
C'est un pont.
The instrument to come into contact with.
Vers moi-même.
Myself, but also with other people.
Vers les autres.
The voice is for me the.
Pour nous soigner.
Strongest healing instrument. For humanity.
Ensemble.
So I'm talking often about voice medicine, as I feel the voice has a huge power for transformation.
Nous transformer.
Through my sounds, I started to travel. Like probably other people take drugs or plant medicine or something, for me, the voice was my entrance to travel. It was also a lot of fun to just try out different sounds and different body positions and make noises. Actually, babies are doing this when they discover their voice. They start to discover the tongue and the lips and do some sounds and using the whole body to express themselves. So I somehow started to play again.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénère tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, nous voilà.
À ce moment-là, on était à l'école au château, puisque les Allemands occupaient notre école. Donc on était dans le château de Chalais. Je me rappelle que l'on avait donc, on était dans une classe dans ce que l'on appelait la salle d'armes. On était alignés par chaque classe et on chantait donc l'hymne « Maréchal, nous voilà », etc. Je me rappelle de ça. Puis un jour, on nous a distribué des cartes du maréchal. Chacun avait 5 cartes à vendre, devait les proposer autour de lui et puis ramener l'argent le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus.
C'est également au profit du Secours National, pour lutter contre la misère, que sont vendus actuellement les portraits du maréchal. Le facteur va de maison en maison offrir les portraits du grand chef dont l'image, de même qu'elle se trouve dans les cœurs, doit avoir sa place dans chaque foyer de France.
Et donc, quand j'avais rapporté ces cartes à la maison, ma mère m'avait dit « tu verras avec ton père ». Mais mon père travaillait beaucoup. Il a travaillé à la maison Chevalier qui était limonadier et donc il rentrait tard étant donné qu'on était occupé par les Allemands, il buvait beaucoup de bière, etc. Et puis le matin en me réveillant, il y avait ces cartes qui étaient sous mon oreiller et avec un petit mot de mon père.
Te voilà 5 francs, ma petite Monique. Et tu garderas ces photos, car ton papa ne veut pas que tu vendes les photos d'un sabreur qui, en 1914, a fait lui aussi des mamans malheureuses et en 1940 met des hommes en prison parce que ces hommes ne voulaient plus qu'il y ait de guerre. Ton papa qui t'aime bien.
Donc le maréchal Pétain n'était pas en odeur de sainteté à la maison. Hein. Quand j'avais amené l'argent, j'avais un petit peu peur parce que j'avais pas fait le porte-à-porte pour le vendre. Normalement, c'était ça, c'était pour le vendre aux voisins, aux voisines. Et moi, je l'avais pas fait, j'avais un petit peu peur, quoi. Mais j'étais craintive.
Elle, c'est Monique, c'est ma mère. Depuis quelque temps, je recueille ses souvenirs d'enfance, souvenirs de guerre. Elle avait 10 ans en 1940. Elle m'a raconté cette histoire du petit mot de son père refusant qu'elle vende les cartes du maréchal Pétain. Un souvenir parmi d'autres, une vie de petite fille sous l'occupation. Ses souvenirs sont lointains, mais le plus souvent, ils sont nets et précis dans sa mémoire. Parfois plus que ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il raconte une petite fille bien peu sûre d'elle.
J'étais la petite fille qui obéit, qui fait ce qu'on lui dit, qui réfléchit pas trop, mais qui veut être toujours bonne élève, faire attention, faire plaisir à tout le monde.
Elle avait un grand frère, Guy, mon oncle. Psychologue de formation, mon oncle Guy est ensuite devenu historien et il a publié plusieurs articles et livres sur la guerre et la résistance dans sa région. Il est mort il y a quelques mois. Et poursuivant mes recherches de souvenirs d'enfance, je me suis donc plongée dans ses écrits. Et un jour, dans une revue d'histoire, je suis tombée sur un article sous sa signature. Ce papier s'interroge sur le témoignage historique et la transformation des souvenirs. L'article de Guy s'appuie sur un exemple concret qui m'a semblé vaguement familier.
Voici une anecdote authentique. L'un de nos amis, un homme âgé d'environ 50 ans, se souvient que son père lui avait interdit de vendre les photos du maréchal Pétain, comme lui demandait l'école. Il se rappelait que son père travaillait alors dans une brasserie et qu'il rentrait très tard à la maison. Voyant ces photos sur la table et mises au courant par la mère, le père avait laissé un mot sur lequel il lui demandait de ne pas vendre ces photos, qu'il préférait lui en payer le prix. Cet ami se souvenait même de quelques termes de ce billet, en particulier du mot « sabreur » utilisé par le père pour parler de Pétain. Quelques jours après nous avoir livré ce témoignage, notre ami revenait nous voir. Il avait justement retrouvé ce mot, conservé dans le dictionnaire Larousse par son père, lieu de dépôt familial des archives. Contrairement à son souvenir, le billet n'était pas adressé à lui, mais à sa sœur. La mémoire du témoin a donc accompli un double travail. Elle a séparé le billet en différents éléments. Le message proprement dit n'a pas été touché, mais le témoin a tout simplement supprimer la sœur.
Bon, mais ça m'a pas traumatisé.
Il aurait pu aussi bien remplacer le « ma chère Monique » par « mes chers enfants », mais non, il a supprimé « ma chère Monique ».
Et puis, à ce moment-là, j'ai retrouvé cette feuille où il y a bien écrit « ma petite Monique ». Donc, ça a été la surprise qui montre que les souvenirs, eh ben, ma foi, ils sont pas toujours vrais, quoi.
Résumons. Mon oncle Guy, historien, raconte dans cet article l'histoire d'un frère s'appropriant le souvenir de sa sœur. Il omet juste de dire que c'est lui. C'est assez drôle. Et ça fait sourire la sœur qui l'a impressionné toute sa vie.
C'est drôle parce qu'il fait comme si c'était pas lui. Et ça m'étonne, ça. Moi, honnêtement, j'aurais dit tout de suite c'était moi, quoi. Tandis qu'il le présente, ça me surprend, ça.
C'est étonnant de la part d'une personne aussi cultivée et rigoureuse que lui. Ou peut-être est-ce justement parce qu'il est reconnu comme historien, c'est assez délicat. Cet article pose d'autres questions. Pourquoi s'est-il approprié ce souvenir-là? Pourquoi cette anecdote est-elle si importante pour lui? Dans la suite de l'article, Guy apporte lui-même quelques réponses qui rappellent qu'il était psychologue de formation.
Pour peu que l'on connaisse l'analyse psychanalytique des rêves et des productions de l'inconscient, on trouve ici un phénomène habituel de condensation entre plusieurs chaînes associatives. L'une permet au sujet de se placer dans le désir du père, d'être considéré par le père. L'autre permet de placer le sujet dans une situation valorisante pour lui. Il participe en quelque sorte à un acte de résistance même important, qui marque le courage d'opinion du père, et donc aussi du fils, et permet de confirmer l'engagement du père, qui était communiste, dans la résistance. Or, nous sommes avant l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique, et l'engagement des communistes avant cette date donne lieu à de vives discussions d'historiens. De cette histoire, il nous semble qu'il faut retenir que le souvenir travaille comme le rêve, qu'il est bien dommage que Freud lui-même ne se soit pas intéressé au témoignage.
Voilà, le souvenir travaille comme un rêve. Derrière ce souvenir volé, il y a le rêve d'un petit garçon qui voulait que son père communiste soit un héros et qui aurait bien aimé avoir part à cet héroïsme. Ce petit garçon est même devenu historien, entre autres, pour documenter l'entrée de son père et des communistes dans la résistance avant 1941. Son rêve était assez fort pour emprunter le souvenir d'une autre et se constituer ce qu'on appelle joliment un « quasi-souvenir ». Les dernières recherches sur la mémoire montrent que le souvenir est plus proche de l'imagination et du rêve que de la connaissance. Le souvenir est presque une forme d'imagination du passé. Pour mon oncle Guy, ce quasi-souvenir a été fondateur. Pour ma mère, c'est un autre souvenir qui a été marquant.
Je trouve ça quand même incroyable. Cette période quand même m'est restée, je me rappelle les noms des Juifs. Les élèves de ma classe, Marc Leczinski, Ida Goldberg, c'est Sonia Lofbaum, je me rappelle leurs noms, tu vois. Ça m'est resté à ce point-là. Je me rappelle vraiment d'elle. Et alors, une camarade de classe était une paysanne que je jugeais pas mal, mais je la trouvais vraiment pétenaude, quoi. Et puis c'est elle qui a caché Marc Leczinski. Et elle, moi je trouvais que c'était la pétenaude, elle a caché une juive. Alors tu sais, ça m'a marqué, hein.
Les cartes du maréchal de Muriel Caes.